Lizzie présente Gare à loups de Jean Tellet, lu par Jean Tellet.
Suivi d'un entretien avec l'auteur.
Chapitre 1. Mais maman, c'est quoi cette horreur arrivée chez nous ? Une gamine, certainement revenant du collège, dépose son cartable à gauche de la porte d'entrée contre une commode au tiroir disjoint, mais surmontée d'un terrarium neuf en plexiglas. À l'intérieur du récipient, empli seulement de quelques centimètres d'eau saumâtre, un caillou dépasse comme une île où vient accoster une sorte de poisson. Bestiole bizarre qui escalade ensuite la pierre dans l'air libre grâce à ses nageoires pectorales et que la gosse regarde stupéfaite. C'est une petite femelle Periophthalmus barbarus, l'informe sa mère. Je la trouve jolie. En bas, dans l'animalerie de l'avenue du Bonheur, elle attendait, derrière la vitrine, soldée à seulement 15 euros yens parce que personne n'en voulait. On peut comprendre les gens, soupire la fille. À part toi, qui aimerait avoir ça chez soi ? Tu as vu ses yeux de monstre ? C'est flippant et sa bouche effraie. Cette bébête se situe à la charnière entre deux mondes, explique la mère fascinée. Elle possède encore une queue de poisson et déjà un museau de bovin. Elle quitte l'eau pour s'aventurer sur la terre ferme. C'est l'évolution de la vie. Tu ne l'as pas appris en SVT ? Découverte récemment parmi des mangroves d'Afrique, il paraît qu'en captivité, elle ne dure pas très longtemps. C'est déjà ça, apprécie la fille, en haut de jogging gris à fermeture éclair et capuche rabattue dans le dos, qui s'accroupit pour fouiller son cartable. Dans cet exigu salon salle à manger kitchenette, où le réfrigérateur fait continuellement du bruit parce que tellement vieux, près d'une cuisinière à laquelle il manque des boutons en façade, ainsi que la poignée d'origine du four remplacée par une autre en bois tenue par des ficelles, l'ensemble de la pièce doit aussi servir pour dormir. Un canapé replié, simple et sans accoudoir, est adossé contre un mur, près de quelques lattes au sol, sans doute impossible à réinstaller. La nuit, ça doit faire des trous dans le lit qui vous démolissent le dos. En ce décor lugubre au mur peinturluré d'arabesques par endroits pour le rendre plus gai, la mère, fine et ravissante blonde de 43 ans, en jean noir, moulant ses cuisses de grenouille et chaussée de souliers à talons, constate « Avec tout ça, moi qui viens aussi d'arriver, je n'ai même pas pris le temps de retirer ma veste. » Elle la déboutonne et l'ôte. Sa fille, restée assise sur les talons de ses baskets Bordeaux et qui l'observe, découvre que, sous une aisselle, la doublure du vêtement est complètement déchirée, mais que le débardeur cintré convient. Il te va à ravir. C'est encore de la récup, rigole la mère en allant ouvrir la porte du frigo pratiquement vide. Parce qu'au travail, mes supérieurs grossissent, mais pas moi. Elles me refilent leurs fringues devenues trop petites. Veux-tu nourrir la bébête ? Il lui faut des vers de vase rouges que tu déposes sur ton index et qu'elle vient choper. Non, non, moi je regarde seulement, je ne touche pas, grimace la gamine qui, devant la commode, réenclenche le fermoir métallique de son sac de collégienne en redressant la tête. De l'autre côté du plexiglas, la Periophthalmus barbarus lui fait un clin d'œil. N'importe quoi ! S'exaspère la fille, qui se relève tandis que la mère s'approche avec un index tendu, grouillant de minuscules proies rouges. « Maman, je vais dans ma chambre. Il faudra que tu signes mon carnet de notes que je laisse sur la table près du vase-arbre. As-tu acheté le pain ? Zut, j'ai oublié. Promis, j'y penserai demain. » Pendant que cette môme, au pantalon trop large et bas des jambes déchiquetées à force de marcher dessus, s'éloigne, Sa mère, à la blondeur frôlant les épaules, sourit devant la bestiole gluante et froide, faisant maintenant corps avec l'ombre. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'elle fait toujours la gueule à cause des commissures de ses lèvres dirigées vers le bas. Elle te regarde fixement avec ses énormes yeux globuleux, mais comme elle a une bouche en forme de sourire à l'envers, même quand je lui donne à manger, elle devrait paraître contente, eh bien non. On a toujours l'impression qu'elle fait la tronche. Elle est à la fois tellement hideuse et belle. Je ne sais pas comment l'expliquer. En cet appartement au 276e étage de la tour dite de l'incendie, la gosse pénètre dans sa chambre étroite jusqu'à une baie vitrée qui occupe toute la place du mur du fond. Contre le verre ou le plexiglas, elle souffle un peu de vapeur où tremble une enfance qui disparaît. Les papiers peints gaufrés de la pièce sont verts et bleus, les lumières tournoyantes du ciel y projettent des lueurs d'aquarium. À gauche, le lit en mezzanine domine un bureau. Le long d'un des montants de l'échelle qui conduit au matelas et qu'escalade la petite, sont punaisées des cartes d'anniversaire où l'on peut lire 8 ans, 9 ans. Sur la carte des 12 ans, on voit une photo hologramme d'elle dont les yeux pivotent vers la droite lorsque la mère, après avoir toqué contre la porte laissée entrouverte, entre un peu pliée en avant. « Que t'arrive-t-il ? » lui demande sa fille dorénavant assise là-haut au bord de la couche. « Tu as mal au dos ?»« Ce n'est rien, ça va passer », répond celle qui, après avoir déposé le carnet de notes sur le bureau, gravit à son tour l'échelle de bois blanc. Toutes les deux, côte à côte et tournant leur visage dans le même sens, contemplent la ville à travers la baie vitrée. Un nid hélicoptère passe sans bruit à leur hauteur tout près, puis va faire tournoyer ses pales au ras d'autres tours, dont la plus grande du secteur, un écorche-cieux appelé la Céleste. Elle culmine à une altitude si vertigineuse qu'on n'en aperçoit pas le sommet, perdu à l'intérieur d'un des nuages roses du ciel jaune qui s'assombrit le soir venant. Des myriades d'étoiles, lumière d'appartement, s'accrochent à la Céleste. La mère se recule pour s'asseoir en tailleur et caler ses reins douloureux contre un coussin latéral. Sa fille s'allonge en chien de fusil et pose de profil sa tête à l'angle d'une cuisse et du ventre maternel. Contre sa nuque aux cheveux châtains clairs et relevés, la gamine sent le velouté du débardeur. C'est doux. J'adore le crêpe de lune. Il te faudra penser à aller manger le reste de mon ragoût de saucisse d'hier que j'ai mis à mijoter. J'en avais gardé une part pour te faire la surprise. Bah et toi ? Je n'ai pas faim, me sens ballonné, prétexte la mère, au ventre plat qui gargouille. Si tu ne travailles pas davantage à l'école, tu galéreras toute ta vie comme moi. Sa petite lui explique qu'elle en a marre du collège, qu'à part les cours de dessin, tout maintenant l'y repousse et la navre. La mère le sait, ne la dispute pas pour les notes. Avec elle, jamais de bride, ni mort, ni reine, ni hop, ni cravache. En revanche, elle s'interroge. Que faire ? Où pourrais-tu aller ? Et puis en classe, surenchérit la môme, à cause de mes incisives en avant, on m'a aujourd'hui encore appelé dent de lapin.
Qui ça ?
Un gars au crâne rasé, style vestimentaire pour faire peur et qui fume déjà, puis une belle rousse flamboyante et prétentieuse, qui monte à dos de kangourou de compétition le week-end et se vante d'habiter à un 500e étage. Elle aussi m'appelle dent de lapin.
Mais non, tu es jolie.
Oh toi, même d'une périophtale machine, tu dis qu'elle est jolie. La gamine complexée et humiliée dans son école tend un bras pour s'emparer d'un doudou, vache en peluche jaune fourrée de mousse et corne molle râpée à force d'avoir été mordillée. Elle porte à ses lèvres cet objet fétiche sali pour en retrouver le goût consolant où les songes d'enfance à la fin se défont. Elle apprécie également de humer sa mère. Tu as toujours un gai parfum de fleurs comme s'il avait plu. C'est mon odeur naturelle, plaisante la génitrice. Je n'ai nullement besoin de fragrance. Mais toi, tu es trop gentille aussi. Ne te laisse plus faire au collège. Il n'y a pas de raison qu'on se permette de te marcher sur les pieds. À un moment donné, ça suffit. Toi qui grandis, évolues, réagis.